c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
À l'époque, dans les années 80, on voyait les bateaux très loin. Pour les voir, c'est difficile parce qu'ils étaient très loin. Mais depuis 2000 jusqu'en 2010, après la crise, c'est là qu'ils viennent jusqu'en bord là. C'est ce qui fait que maintenant, tout ce qu'on trouvait est un peu rare maintenant. Parce qu'ils viennent maintenant prendre pour nous aussi.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, et oui, ils sont là tout au long de la côte, et effectivement, on les voit à l'œil nu, des chalutiers de toute nationalité, avec ou sans licence de pêche, qui viennent pêcher le jour comme la nuit au bord des côtes, dans des zones interdites. Le phénomène n'est pas nouveau, la pêche illégale concerne tout le golfe de Guinée, mais en Côte d'Ivoire, elle a pris une telle importance que la situation est devenue critique. Alors comment mettre un terme à ce pillage accéléré par les années de crise ? Une question difficile, car le pays manque de moyens et de matériel pour lutter contre cette pêche illégale, comme le démontre ce reportage d'Igor Strauss.
Je suis le lieutenant-colonel Bruno Ba, commandant de la police maritime de San Pedro. C'est une flotte de chalutiers chinois qui étaient en train de pêcher de façon irrégulière. Donc les agents ont essayé de les arraisonner. Mais malheureusement, ils ont utilisé des embarcations traditionnelles de pêche, c'est-à-dire les pirogues de pêche. Vu le déséquilibre des forces, ils ont tiré sur 5 des nôtres, des pêcheurs chinois, qui ont tiré sur 5 des nôtres, des agents de la police maritime. Jusque-là, nous n'avons pas retrouvé les corps. La procédure est encore en cours devant les juridictions.
On n'a jamais retrouvé ces chalutiers chinois ?
Non, non, pas jusqu'à ce jour, hélas. Et à l'époque, c'est moi-même qui suis arrivé, qui était dépêché par l'administration, je n'étais pas encore à San Pedro, pour les premières investigations. Et ces navires avait pour port d'attache un port d'un pays voisin. Donc ce pays voisin a été saisi aussi à l'époque.
Lequel, un pays vraiment voisin, le Libéria, le Ghana ou encore un peu plus haut?
Un pays voisin.
Et donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Là c'est une affaire diplomatique qui nous échappe. Donc.
Vous pensez que ça pourrait se reproduire ou que c'était un épisode isolé?
Mon souhait c'est que ce soit un épisode isolé. Parce que les chalutiers sont supposés ne pas posséder d'armes à feu. Donc... C'était une opération de routine qui se passait. Mais maintenant, nous avons pris d'autres dispositions. Pour chaque navire que nous allons arraisonner, nous prenons des dispositions.
C'était en 2009 à Fresco, une petite ville de la côte à 200 km d'Abidjan. Un navire battant pavillon ghanéen avec un équipage chinois tirait sur des officiers de la police maritime. Un acte terrible, mais loin d'être isolé. En 2008, déjà, un pêcheur de San Pedro perdait deux hommes et tout son matériel lors d'une altercation avec des pêcheurs illégaux coréens, eux aussi armés. Depuis, les pêcheurs de Côte d'Ivoire ruminent leur colère. Pour eux, l'État ne joue pas correctement son rôle dans la sécurisation des eaux territoriales et la préservation de la ressource halieutique. Des remontrances qui agacent Kobenan Kwasi Adjoumani, le ministre des ressources animales et halieutiques.
Ce qui se passe en mer, c'est la même chose qui se passe même en pleine ville. Est-ce que vous allez dire que le ministre de l'Intérieur a beau travailler et c'est ce qu'il fait ? A beau limiter les dégâts, mais il y aura toujours des vols qui vont être perpétrés. De la même façon, on a beau travailler, mettre en place un système de surveillance satellitaire, aller même avec les patrouilleurs, orchestrer des patrouilles en mer, il y aura toujours une pêche frauduleuse. Mais ce que les autres ne disent pas, de la même façon qu'on traque les pêcheurs illicites, de la même manière on traque souvent aussi nos pêcheurs locaux, qui certes disposent de licences de pêche, mais qui pêchent dans des zones indues, eux aussi.
Direction la côte entre San Pedro et Sassandra, deux ports de pêche du pays. Les plages de rêve se succèdent, elles sont désertes. Le piteux état de la route côtière a fait fuir les derniers touristes. Premier arrêt à Konoukro, un minuscule village de pêcheurs.
Je me nomme Gagnon Jérôme, je suis de Konoukro. Dans la région de Monongaga, et je suis un pêcheur. Les chalutiers, lorsqu'on place les filets, ils viennent en faisant des traînes aussi pour faire aussi les pêches, ils ramassent nos filets. Ils arrivent toujours à nous arracher. Le bateau vient jusqu'à 150 mètres du bord. Hein. On les voit, on voit les gens, même avec des portables en caméra, on peut les filmer. Bon, tu sais, moi j'ai une petite pirogue en pagaille. ne peut pas les joindre parce que ils ont des moteurs. Lorsqu'ils voient les petites pirogues venir de loin, ils vont au large et puis on ne peut pas les rattraper. Et c'est comme ça qu'ils nous embêtent.
Et ça, ça fait longtemps que ça dure?
Oui, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Je peux dire, ça peut valoir au moins 8 ans, 9 ans, 10 ans par là, hein. Ils sont là, ils sont là. Et les années, ils viennent, ils peuvent faire au moins 6 mois en nous embêtant comme ça dans l'année. Et quand ils viennent, on veut faire un peu, quand même une petite remarque par les drapeaux pour savoir de quel pays ils viennent. Mais on ne voit pas de drapeaux dans les bateaux. Ouais. Ça fait que maintenant même, là, toutes les qualités du poisson qu'on avait l'habitude de voir facilement, c'est maintenant rare. On ne les trouve pas comme l'habitude. Et ce n'est pas toutes les qualités des poissons qu'ils prennent. Ils en profitent en mettant à détruire aussi ce qu'ils ne veulent pas, parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est déjà mort. Et ils jettent en l'eau. On a l'habitude que quand ils passent comme ça, au moins dans un mois, quelques temps après, on voit les carapaces, les langoustes, ça accroche au bord. Donc on a l'impression qu'il est tué, il est détruit. Donc maintenant, c'est difficile à avoir des langoustes.
Ça vous inquiète ça?
Oui, ça nous inquiète beaucoup. Parce que moi, présentement, c'est de ça que je peux dire que je me nourris avec ma famille. J'ai présentement 4 enfants à l'école. C'est avec la pêche que j'arrive à financer pour mes enfants aussi. Et c'est un problème, parce que ça ne marche plus comme avant.
Sur les conseils de Jérôme, je pars à quelques kilomètres de là, sur la plage de Monogaga, un village tranquille où cohabitent des Ivoiriens et des pêcheurs ghanéens. En Côte d'Ivoire, près de 90% de la pêche artisanale maritime est effectuée par des Ghanéens.
On m'appelle Koblan Yuropo, et c'est un pêcheur. Bon, des fois on va sur l'eau, deux bateaux de pêche, ils nous fatiguent. On est défilé, il y a un pilote qui est filé au moins 35, 40 filets, bateaux de pêche, ils viennent, ils coupent ça. Bon, ils sont obligés de prendre crédit encore pour payer filet, aller sur l'eau. Bon, si tu as 30 filets, ça peut coûter 2 millions, c'est beaucoup d'argent. Donc tu travailles, tu finis pas à payer le crédit. Tu as un père de famille, tu as les enfants et des femmes, et tous ils sont sur toi. Il y a tes enfants qui vont à l'école, donc ça devient beaucoup les histoires. On ne sait pas où on trouvait l'argent pour les nourrir. Tout ça, c'est défatigant. On monte dans leurs bateaux pour les aider de quitter. Ils refusent. Tous les jours, ils sont là. Ils volent. Des fois, on va pour les chasser. Ils vont. Et puis la nuit, ils viennent pour pêcher là-bas. Là, matin, tu es allé, tu lèves ton filet. Quand tu vas partir, tu ne vois pas ton filet. Ils ont tout coupé.
Et alors, c'est qui ces gens-là?
C'est les Japonais, bateaux des Japonais, bateaux des Sénégalais, pauvres. Ils sont tous ménagés, ils nous fatiguent toujours.
Ils sont tellement fatigués qu'ils envisagent même de quitter la Côte d'Ivoire. Une idée qui inquiète Augustin Lagbakeke, le chef du village de Monogaga.
Les gens ont demandé à partir. Et si les gens quittent le village est vidé. C'est grâce à eux aujourd'hui, Monogaga est Monogaga. Mais si je laisse ces gens-là partir, on devient quoi? Puisque les Ivoiriens ne pêchent pas, c'est les Ghanais qui pêchent. On ne veut même pas qu'ils partent. Puisque quand moi je suis né, je les ai trouvés là. Quand je suis né, les Ghanais étaient déjà installés. Donc il faut tout faire pour qu'ils restent. Pour moi, il faut que le gouvernement trouve une solution à ce problème-là. Parce que c'est un problème. Et aujourd'hui, ces Ghanais-là, ils font beaucoup pour Monogaga. Moi, je ne veux même pas qu'ils partent.
Ça fait combien de temps que la situation est comme ça?
Depuis 97-99, par là. Les gens venaient jusqu'à terre pêcher. Et ce qui a fait qu'un jour, ils sont allés, mais ils ont pris des cailloux, allés les lapider. J'ai dit non, laissez-les. C'est que c'est un problème qu'on peut régler. Parce qu'on va aller voir. Maintenant, le sous-préfet pour voir ce qu'elle peut faire pour nous. La police maritime, on est allé, lui-même l'a dit ouais, que ce n'était pas normal. Et toujours, je me plains, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de matériel pour aller sur la mer pour régler ce problème-là. Parce qu'ils n'ont pas à San Pedro, ils n'ont pas de matériel. C'est ce qu'il m'a dit.
Voici donc à San Pedro en compagnie du lieutenant-colonel Bruno Ba, commandant de la police maritime de San Pedro.
La pêche illégale, ce n'est pas seulement un problème de San Pedro, c'est pratiquement sur nos côtes. Du fait que les moyens logistiques pour la surveillance ne sont pas très efficients, donc ils profitent de cette faiblesse pour effectuer des opérations de pêche illicites. Vous avez plusieurs chalutiers, ça peut être quelquefois une dizaine de chalutiers, qui pêchent hors des zones de pêche. Ils viennent dans les zones de reproduction des espèces pour racler pratiquement tout avec des filets démesurés. Nous avons eu à raisonner des chalutiers par le passé, avant la crise, lorsqu'on avait les moyens. Mais avec la crise post-électorale, pendant près de 2 à 3 ans, nous étions dans l'impuissance. Ils ont profité de cette situation.
Mais très concrètement, où est-ce que ce poisson est vendu ensuite?
Nous n'avons aucune idée de la destination. Mais nous serons surpris que ce soit destiné à la Côte d'Ivoire. Parce que ces chalutiers, hein, généralement, ne foulent même pas les ports ivoiriens. Ils restent en mer, ils font toutes les opérations en mer, toutes les transactions en mer.
Donc vous avez dit que vous en aviez à raisonner certains. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Par le passé, ils ont eu à payer des amendes. Il y a la saisie des captures. Et on les amène à se mettre à jour vis-à-vis de l'administration.
Le problème, c'est que malgré ces injonctions, il y a de plus en plus de chalutiers chinois sur les côtes africaines et notamment au large de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce phénomène vous inquiète?
Le président de la République a doté la Côte d'Ivoire de 2 nouveaux patrouilleurs, donc on les voit de moins en moins.
Mais 2 patrouilleurs pour des kilomètres et des kilomètres de côte, ça semble quand même assez peu.
Oui, mais il faut accepter quand même qu'on s'équipe progressivement.
Colonel, merci infiniment.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Des moyens limités donc pour préserver 550 km de côte. Mais quelles sont les conséquences de cette pêche illégale sur les ressources halieutiques?
Je suis Assoi Nguita, chef de poste de l'élevage des ressources halieutiques à San Pedro. Oui.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de la ressource halieutique ici?
Bon, dans l'ensemble, c'est à l'image du pays. Hein. Avec la présence des bateaux pirates là, ça fait que nous avons un problème de production. Nous avons, parce que c'est nous qui faisons les statistiques. Nous avons constaté que, au fur et à mesure que les années passent, notre production diminue au jour le jour. Chaque année, on a constaté qu'il y a une diminution de entre 5 000 et 10 000 tonnes par an.
Ah, donc c'est quand même conséquent.
C'est quand même, c'est beaucoup. Donc c'est ce problème que nous avons. Mais malheureusement, souvent même quand les pêcheurs ils vont en mer, ils vous appellent pour dire que nous sommes en face de nous, il y a un navire qui nous empêche de travailler. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous sommes des civils, on informe l'autorité, mais très souvent, il n'y a pas de suite. Hein. Parce que quand vous faites une mission, vous venez une fois, vous vendez la main sur un bateau pirate, c'est fini, hein. On s'en va pour peut-être 1 an, 2 ans encore. Et là, c'est que rien n'est fait. Donc la faute revient à l'État. Moi, ça me fait pratiquement 9 ans que je suis là, je suis à San Pedro. J'ai l'impression que ça devient plus au jour le jour. Parce que ça fait même pas 3-4 mois, j'ai des pêcheurs à Monoanga là. Ils m'ont appelé pour dire que mais à une dizaine de mètres, il y a le navire qui est là. Il a fait pratiquement une semaine. Le dernier navire que l'État a mis la main, il y avait des crevettes à l'intérieur, alors qu'ils avaient une licence de pêche pour de mettre à dire le poisson. Mais malheureusement, on a trouvé à bord de ce navire-là justement une usine de fabrication, une usine de vente de crevettes. Et j'ai causé avec un des leurs, il m'a dit que leur acheteur, il est au large. C'est-à-dire, ils ne viennent pas sur les côtes. Dès qu'ils ont leur production, ils se communiquent. Et c'est sur l'eau que ça se passe.
Ça veut dire qu'on a des bateaux pirates qui pêchent illégalement, que l'État ivoirien perd sa ressource halieutique et qu'en plus, les populations n'en bénéficient pas, puisque le poisson part ailleurs.
C'est ça. Donc, vous voyez que il faut que l'État mette les moyens pour nous protéger, protéger nos eaux. Sinon, bientôt, on parlera de pêche maritime ici, surtout artisanale. Si l'État ne fait rien.
De nombreux métiers dépendants de la pêche sont également menacés. On pense aux mareyeurs, aux vendeuses de poissons et même au secteur du tourisme. Direction Sassandra à présent, un port de pêche entre San Pedro et Abidjan, touché lui aussi par la pêche illicite.
Moi, c'est Soumaoro Amara. Je suis né à Sassandra. J'ai grandi ici. Je suis dans le tourisme, je suis un guide de pêche. Bon, avec les bateaux chalutiers, c'est difficile. Puis les bateaux viennent jusqu'à 200-300 mètres du bord, il n'y a plus de poissons.
Est-ce que les autorités de Sassandra sont au courant de ça?
Oui, ils sont au courant, mais ils ne veulent rien faire.
Ils veulent rien faire ou ils peuvent rien faire?
Bon, en fait, on essaye de les parler, les expliquer un peu. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien, quoi. Rien n'a changé, quoi. C'est toujours pareil.
Et du coup, la population, qu'est-ce qu'elle dit ici?
La population en parle, mais rien ne change, quoi. Là, on ne peut rien faire. Hein. Au bout du jour, il n'y a plus de touristes. Mais au moins, avec les Ghanéens, il y a un peu de poissons. Mais maintenant, si les filets, les chalutiers viennent tout ramasser, là, c'est fini.
pensez que les Ghanéens pourraient quitter la Côte d'Ivoire pour...
Pour aller s'installer ailleurs.
Et du coup, ça serait un problème pour vous?
Ouais, ça serait un problème. Parce qu'on a d'autres parents qui viennent payer du poisson là pour aller revendre ça dans les campements pour pouvoir s'en sortir un peu. Mais si les Ghanéens, en fait, ne pêchent pas, ils font comment pour manger? Là, tu vois, ça devient encore compliqué. Il faut y mettre un peu d'ordre.
Monsieur Adjoumani, vous êtes le ministre des Ressources animales et halieutiques. Mm-hmm. Comment lutter efficacement contre cette pêche illégale? La Côte d'Ivoire a-t-elle les moyens logistiques, financiers, en ressources humaines pour mener une répression?
La lutte contre la pêche illégale est très onéreuse. Or, nous, en Côte d'Ivoire, nos moyens sont insuffisants pour engager une lutte appropriée. Pour remédier à cette insuffisance de moyens, nous avons décidé de travailler de concert à travers la coopération internationale, régionale et sous-régionale. Nous avons mis en place un système de surveillance satellitaire grâce à l'Union européenne. Et très bientôt, nous allons disposer de balises dans tous les bateaux de pêche qui viennent pêcher dans nos eaux, de sorte à ce qu'il y ait des signalements chaque fois que ces bateaux-là seront dans nos eaux. Dieu merci, le président de la République nous a permis d'acquérir 3 patrouilleurs. Nous avons également des vedettes qui nous permettent d'aller à l'encontre de ces fraudeurs. Et depuis que ces vedettes existent, depuis que ces patrouilleurs existent, vraiment, il y a des efforts qui sont faits et les pirates sont traqués. Souvent même, il y a des peines et des amendes qui leur sont infligées. Et ça fait qu'il y a eu un ralentissement. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le non-respect de la zone de pêche est puni par la nouvelle loi. C'est vrai, on avait une loi sur la pêche, mais elle était très limitée, en ce sens que les amendes et puis les sanctions encourues n'étaient pas aussi importantes. Or aujourd'hui, si vous êtes arraisonné, vous êtes passible d'une peine de 1 à 5 ans de prison ferme et vous payez une amende de l'ordre de 50 à 300 millions de francs CFA.
Et vous pensez que ce sera dissuasif?
Oui, mais ce sera dissuasif. La loi va être appliquée. Donc, en la matière, nous n'allons pas badiner.
Monsieur le ministre, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Quelques questions restent en suspens. Comment fonctionnera le système satellitaire? Comment se passeront la transmission d'informations, puis les interventions? Les pêcheurs seront-ils associés à la surveillance? Quant aux patrouilleurs, pourront-ils effectuer plus de 25 jours en mer par an, comme c'est le cas actuellement? Iront-ils jusqu'à Sassandra et San Pedro, vu le coût du gasoil? Du côté de San Pedro, certains en doutent. Aswan Guita, chef de poste d'évaluation des ressources halieutiques de San Pedro.
Je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas trop mis l'accent sur la pêche. Notre économie était basée sur les matières premières, café, cacao. Donc c'est un secteur qu'on a tendance à délaisser. Donc c'est pour ça qu'il provoque tout ça. La preuve est que les pêcheurs sont des étrangers, surtout la pêche maritime là. 90% des pêcheurs sont des étrangers, viennent du Ghana, du Libéria. C'est-à-dire que l'Ivoirien même n'a pas la pêche dans son sang, puisqu'on continue même d'importer du poisson de lait sérieux. C'est-à-dire que nos productions ici là est inférieure à ce qu'on importe. C'est ça qui explique que l'État, bon, c'est ma vision.
Les ravages de cette pêche pirate présentée dans ce reportage d'Igor Strauss réalisé par François Porcheron touchent tous les pays de la côte ouest africaine. Restez avec nous sur RFI juste après le flash d'info. Nous verrons avec nos invités leurs impacts et les stratégies possibles pour y faire face. À tout de suite. Écho d'ici.